Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, notre studio est installé à l'hôtel de la région Rhône-Alpes à l'occasion du sommet mondial climat et territoire qui s'est déroulé pendant 2 jours cette semaine à Lyon, à 5 mois de la conférence que l'on espère décisive sur le climat à Paris début décembre. Ce sommet permet à l'ensemble des acteurs de la société civile de se faire entendre et de souligner l'importance de l'approche territoriale des enjeux climatiques. Pendant ce week-end, nous allons leur donner la parole dans C'est pas du vent et l'on commence tout de suite avec deux invités. David Hurtel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ministre du Développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. Et à vos côtés, Ronan Dantec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de Loire-Atlantique, porte-parole de CGLU, Cité et Gouvernement Locaux Unis. Et vous avez co-présidé l'organisation de ce sommet. Alors, quel était l'objectif ?
L'objectif, c'est que les acteurs territoriaux se fassent entendre à 5 mois de la COP à Paris. Se fassent entendre pour dire d'abord que nous voulons un accord à la hauteur des enjeux. Pour dire notre disponibilité pour agir. Globalement, on dit aux États, trouvez l'accord, nous on va faire le boulot derrière. Et puis aussi, pour leur dire, nous prenons des engagements. Et il y aura ici des engagements chiffrés qui vont rassembler la totalité des territoires. Mais nous voulons aussi des outils, et notamment la question du développement, de l'accès au financement pour les territoires du Sud, et une des questions de ce sommet.
Alors David Hurtel, le Québec et ses 8 millions d'habitants et la province du Canada, je parle sous votre contrôle, mais qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc vous êtes déjà un bon élève. On va parler de votre stratégie dans un instant. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire, notamment pour nos auditeurs qui n'ont jamais mis les pieds au Québec, quels sont déjà les effets des changements climatiques que vous percevez ?
Plusieurs effets, que ce soit l'érosion côtière, les extrêmes météos, on parle d'inondations de plus en plus fréquentes, de plus en plus importantes, on parle d'impact sur les infrastructures, particulièrement quand on parle du Québec et de l'Ontario, on parle des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Alors, on parle de salinisation plus importante du fleuve Saint-Laurent, qui auparavant était un cours d'eau principalement d'eau douce. Le front salin avance, le niveau du fleuve baisse, il y a des espèces aquatiques envahissantes qu'on voit de plus en plus dans nos eaux. On voit les impacts également sur la santé. Donc, il y a plusieurs impacts qui se font ressentir et c'est pour ça qu'au Québec et d'autres États fédérés, parce que c'est très important et c'est pour ça que nous sommes ici durant ce sommet, c'est très important que le rôle d'action des États fédérés, comme le Québec, comme d'autres provinces canadiennes et les États américains, se fasse entendre et se fasse reconnaître lors de ce sommet et en route vers Paris.
Et ce ne sont pas que des paroles, puisque vous avez mis en place le 1er janvier 2013 un système québécois de plafonnement et d'échange de droits d'émissions de gaz à effet de serre, enfin c'est ce qu'on appelle un marché carbone, hein. Et en janvier 2014, vous êtes relié à celui de la Californie. Alors justement, c'est la preuve justement que quand les États travaillent ensemble, ça peut marcher. Comment ça marche ce marché carbone entre États de deux pays différents?
On parle, ben oui, alors on a créé avec la Californie le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord. Donc on parle de deux États fédérés, de deux pays différents, qui parlent deux langues différentes, qui ont réussi à s'unir sur la question des changements climatiques et ont mis en place des moyens d'action concrets pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Alors, un marché du carbone, c'est quoi finalement? C'est de faire en sorte de mettre un prix sur le carbone et de faire en sorte que les grands émetteurs, les entreprises responsables d'émissions de gaz à effet de serre, doivent, au-dessus d'un certain niveau d'émissions, payer, acheter des crédits carbone pour pouvoir justement transiger ces crédits. Parce que le marché du carbone, ce qu'il fait ultimement, c'est qu'il crée un incitatif aux entreprises de changer leur comportement, développer des technologies innovantes pour justement moins dépendre d'énergie fossile. Également, ça génère des revenus pour le gouvernement. Alors, le gouvernement du Québec, déjà, a généré, suite à 7 ventes aux enchères de crédit carbone, dont les 3 dernières communes avec la Californie, plus de 550 millions de dollars en revenus en route vers un objectif de 3,3 milliards de dollars d'ici 2020. Et cet argent-là est entièrement versé dans le fonds vert du gouvernement du Québec qui, lui, investit entièrement ces sommes dans des mesures d'adaptation et de mitigation au changement climatique. Et alors, on investit dans le développement d'électrification des transports, le transport collectif, on investit également dans des sources d'énergie renouvelable. On investit surtout dans le développement de technologies propres. Et c'est une source de développement économique très importante. Et aussi, ça développe tout un nouveau secteur d'exportation du savoir-faire québécois. Alors, on voit notamment dans le transport, mais dans d'autres secteurs, l'efficacité énergétique notamment, de nouvelles technologies qui non seulement nous servent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également nous positionnent avantageusement en termes de développement économique moderne.
C'est la preuve, hein, Ronan Dantec, que les territoires peuvent agir par eux-mêmes en dehors des États.
Et même dans cet exemple, ça prouve que les acteurs territoriaux, donc des États, États fédérés, mais aussi des entreprises qui se posent aussi aujourd'hui la question d'un prix du carbone, sont capables de créer des dynamiques là où les États n'y arrivent pas. Moi, je crois qu'un des points importants, effectivement, de cette discussion, et on en discute actuellement dans l'atelier économie bas carbone qui a lieu ici à Lyon, finalement, ce sont les acteurs territoriaux qui sont en train d'expérimenter des choses qu'on va proposer derrière aux États. Le prix du carbone, c'est la question clé pour la négociation après Paris. Pas pour Paris, c'est trop tôt, mais le cycle de négociation d'après Paris, je me projette un peu en avance, mettra la question du prix du carbone au cœur.
Même les entreprises aujourd'hui le réclament.
Tout à fait. Et en fait, on est en train d'expérimenter avec des acteurs territoriaux. On est peut-être même, nous, en train de voir où est le prix différencié du carbone qui va permettre de le généraliser à l'échelle mondiale. Et à un moment, on le proposera aux États. Et je crois que cette démarche, elle permet de dépasser les blocages, puisque la négociation mondiale entre États, c'est 200 intérêts nationaux autour de la table, et on a bien vu à Copenhague ou même dans l'après-Kyoto qu'il n'y arrivait pas. Je crois que notre responsabilité, c'est tout le sens de ce sommet, c'est nous-mêmes de trouver les points d'équilibre, de compromis à l'échelle planétaire et les proposer aux États.
Alors David Hurtel, en plus, là je disais, votre marché carbone, vous l'avez donc fait avec la Californie, mais vous avez l'intention de l'élargir à d'autres États.
Ben oui, déjà l'Ontario a pris la décision en avril dernier de se joindre au marché du carbone Québec-Californie, ce qui fait en sorte que, et ça illustre bien le rôle des territoires, et particulièrement en Amérique du Nord, on parle d'États fédérés qui ont les véritables juridictions, les véritables pouvoirs en matière de lutte contre les changements climatiques, ne serait-ce que si on parle de développement énergétique, d'affaires municipales, de santé, d'environnement, ces pouvoirs résident chez les États fédérés. Alors là, avec l'arrivée de l'Ontario dans le marché du carbone Québec-Californie, là, ça donne plus de 54 % de l'économie canadienne et 62 % de sa population qui aura un marché du carbone. Et si on ajoute la Colombie-Britannique, une autre province canadienne qui a établi une taxe carbone, bien, ça fait maintenant près de 75 % de la population canadienne qui a une forme de prix carbone. Alors, malgré le fait qu'on a un État national, le gouvernement fédéral canadien...
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est quand même un peu ironique, parce que vous avez... Le Canada fait partie des mauvais élèves aujourd'hui
dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pour démontrer que, en reconnaissant la réalité politique des différentes nations, vous découvrez que le vrai pouvoir de changer les choses réside peut-être ailleurs. Et donc, quand on regarde le Canada, quand on regarde les États-Unis également, on voit que les actions concrètes et le changement concret se fait au niveau des provinces, donc au niveau des États fédérés. C'est la même chose au niveau des États-Unis. On voit, en plus de la Californie, deux autres États, l'Oregon et Washington, qui présentement ont des projets de loi, étudient des projets de loi pour se joindre au marché Québec-Californie. Il y a un marché du carbone qui est en place dans le nord-est américain, qui regroupe 9 États dans le Regional Greenhouse Gas Initiative, qui vise les producteurs d'électricité. Donc, la Maison-Blanche, évidemment, le président Obama a mis en place des directives et des mesures à travers le Environmental Protection Agency qui favorise le développement d'établissements de prix carbone. Donc, on voit qu'au niveau des États fédérés et donc des territoires, on voit que le véritable momentum est enclenché. Et donc, c'est très important, en route vers Paris, que le rôle des États fédérés soit reconnu et intégré à la conférence des parties.
Je disais que F. Il fait trop chaud ici.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous sommes installés à l'hôtel de la région Rhône-Alpes à l'occasion du sommet mondial climat et territoire qui s'est déroulé cette semaine à Lyon pendant 2 jours avec David Hurtel, ministre du développement durable du Québec, et Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique et coprésident de l'organisation de ce sommet. Alors David Hurtel, vous le disiez, dans les négociations internationales sur le climat, ce sont les États qui s'expriment, ce sont pas les territoires. Justement, le Québec n'a pas sa voix, j'ai envie de dire, dans ces négociations. Est-ce que pour vous, c'est un problème?
Bien, c'est sûr, c'est un défi, mais encore une fois, grâce au sommet de Lyon, grâce également à d'autres efforts qui se font au niveau international, on voit que le rôle des États fédérés, d'autres appellent ça des juridictions infranationales, les territoires, les municipalités, on comprend que la solution passe nécessairement par les États fédérés pour avancer concrètement. Donc, le marché du carbone, c'est une solution, mais il y en a plusieurs autres, et c'est de ça dont on parle ici à Lyon au cours des 2 prochains jours.
À Ronan Dantec, on voit ici beaucoup d'acteurs qui jouent un rôle essentiel. C'est le cas des villes. Vous vous battez personnellement. J'ai suivi votre combat depuis des années pour valoriser ce niveau d'action. Ce sommet, c'est un début de réussite?
c'est surtout pas un coût. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire, bon, tiens, il y a la négo climat, on va faire un sommet 5 mois avant. Il faut se dire que c'est une longue marche pour les acteurs territoriaux et globalement pour les acteurs non étatiques d'être reconnus dans ces négociations internationales. Normalement, depuis Rio, l'ONU reconnaît des acteurs non étatiques, les collectivités territoriales, les syndicats, les ONG, les entreprises. Mais jusqu'à présent, nous avions peu voix au chapitre. Le sommet de Lyon, c'est la première fois que tous ces acteurs travaillent aussi précisément ensemble. Nous aurons un travail dans la durée jusqu'à Paris. Nous allons proposer ce que nous avons présenté jeudi à Lyon aux États.
Oui, parce qu'il y a donc 10 ateliers thématiques et chaque atelier a présenté un rapport, enfin avec des engagements.
Avec des engagements et des propositions. Notamment jeudi, la séance d'engagement a permis de montrer la totalité des engagements des territoires à travers tout leur réseau. Et c'est tout à fait considérable. C'est le principal engagement en tonnage CO2 pour la période 2015-2020, de très très loin.
En chiffres, ça donne quoi ?
En chiffres, ça donne plus de 1,5 milliard de tonnes CO2 adossées à des décisions politiques.
Alors ça ne veut pas dire grand-chose pour les auditeurs.
C'est-à-dire que globalement, on considère qu'il faut à peu près gagner 10 milliards de tonnes CO2 en réduction d'émissions d'ici 2020 pour être dans une trajectoire crédible avec le 2 degrés. Aujourd'hui, 10% des territoires de cette planète, à travers leur gouvernement comme celui du Québec, ont pris des engagements, ont voté des engagements. 10% des territoires, et ça représente déjà plus de 15% de l'effort, sachant qu'en plus, on ne couvre pas la totalité des émissions. Ça veut dire, et c'était la deuxième séquence d'engagement, que si les réseaux, moi je suis porte-parole du climat du principal réseau mondial qui est CGLU, si les réseaux poussent leurs membres à être au même niveau que ceux qui ont déjà pris des engagements, on va atteindre le résultat voulu par les scientifiques. C'est tout à fait considérable. Et ce sommet l'a montré. Mais il n'a pas fait que ça. Il a dit aussi, on peut pas dissocier climat et développement. La séquence 2015, c'est aussi les objectifs de développement durable à New York, le financement à Addis Abeba. Si on n'a pas d'accord sur le développement, on n'aura pas d'accord sur le climat. Et même, il faut utiliser probablement les moyens du climat, les taxations carbone, le fonds vert, pour aider au développement des territoires et avoir un accès à l'énergie qui soit durable. Donc là, on a fait des propositions d'accès au financement, de chapitres spécifiques sur la capacité à faire, le capacity building. J'ose pas utiliser des mots anglais avec mon collègue et ami québécois.
Surtout mais nous sommes un média francophone.
Absolument, c'était justement une petite provocation très maîtrisée. Mais on met tout ça sur la table. Et donc, nous l'avons donné jeudi au ministre français, à Carole Dysbourg, qui va présider l'Union européenne pendant la COP. Nous l'expédions, nous l'envoyons aux 200 gouvernements nationaux. Donc c'est une vraie dynamique. Et cette dynamique, elle vient aussi, je crois, du fait que les acteurs non étatiques ont compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Que la négociation était trop compliquée, que les 200 intérêts nationaux, c'était difficile de trouver le point de compromis. Et que finalement, il fallait que nous aussi, on participe d'une dynamique où on sort de son précaré. C'est pas juste les régions entre elles, les villes entre elles, ou les syndicats, les entreprises entre elles. Non, c'est tous ensemble. C'est la première fois qu'on fait ça, à ce niveau de mobilisation. Et je sais déjà qu'au niveau onusien, au niveau des États, ils l'entendent. Ils l'entendent. Mais aussi, très clairement, c'est pas contre les États. C'est-à-dire, on sauvera pas la planète uniquement par l'action des territoires. C'est une coopération nécessaire entre toutes les échelles.
David Hurtel, ça met la pression sur les États. Hein. Vous êtes une province du Canada. On le disait tout à l'heure, le Canada qui est donc pas un très bon élève. Donc, toute l'action que font les États fédérés au sein du Canada peut avoir une conséquence sur la politique du pays?
Ben, une conséquence certaine, et on voit déjà les changements, parce qu'il faut comprendre, dans un système fédéral comme celui du Canada, les provinces sont légales du gouvernement fédéral en termes de lutte contre les changements climatiques. Les juridictions, qu'on parle en énergie, qu'on parle d'environnement, qu'on parle de santé, d'éducation, d'affaires municipales, ce sont toutes des juridictions qui relèvent des provinces. Et donc, nous sommes pleinement souverains dans nos compétences. Et donc, c'est nous qui avons les véritables leviers. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une collaboration entre le Québec, les autres provinces et le gouvernement fédéral pour arriver à une action concertée pour Paris et par la suite. Et c'est donc pour ça qu'au niveau des provinces, il y a eu des actions très concrètes qui ont été posées. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a organisé en avril dernier le premier sommet de l'histoire du Canada sur les changements climatiques qui a rassemblé l'ensemble des provinces et territoires canadiens.
Beau pied de nez, gouvernement.
Et donc, de dire, mais c'était pas dans l'intention de faire un pied de nez, c'était plutôt de dire, regardez, il est possible de collaborer. Et les provinces canadiennes sont très différentes. Il y en a, comme l'Alberta, qui sont productrices de pétrole. L'Alberta est autour de la table, tout comme la Saskatchewan, tout comme Terre-Neuve, tout comme l'Ontario, et le Québec, la Colombie-Britannique, l'ensemble était présent. Et suite au sommet, il y a eu la déclaration de Québec, une déclaration de l'ensemble des provinces et territoires qui disent « Nous sommes prêts à collaborer, à travailler ensemble, d'explorer la question d'un prix carbone, de vouloir collaborer avec le gouvernement fédéral. » Alors, nous avons invité le fédéral à travailler avec nous et on a vu déjà les changements. Le fait que l'Ontario se joigne au Québec dans le marché carbone avec la Californie, c'est un changement majeur dans la dynamique canadienne, voire nord-américaine, mais également... Ça envoyait un signal clair au gouvernement fédéral que les provinces ont un rôle concret de leadership.
Et alors, est-ce que vous travaillez avec d'autres provinces dans d'autres régions du monde?
Absolument. Nous sommes co-signataires et co-présidents de l'Alliance des régions qui est menée par une ONG qui se nomme The Climate Group. Et le Climate Group, à travers cette alliance, a regroupé une trentaine de gouvernements régionaux, donc des municipalités, des régions, des États fédérés. Et nous sommes membres et nous co-présidons cette table avec le Pays Basque et l'Australie méridionale. Et ce que le Québec fait à travers ces échanges, c'est justement de mettre de l'avant non seulement le rôle, l'importance du rôle des États fédérés ou des régions, et ce que nous appelons également les juridictions infranationales, mais comment concrètement nous avons avancé. Il y a des provinces d'Afrique du Sud qui sont représentées, il y a des municipalités d'Amérique latine qui sont représentées au sein de cette table, et justement à travers les ONG, d'autres ONG comme ICAP, AITA, les groupes de travail, les groupes techniques de la Banque mondiale, on voit tout le momentum qui est généré par les États fédérés, pour ensuite arriver à Paris et par la suite à démontrer clairement que le leadership démontré par le Québec, l'Ontario, la Californie et d'autres joueurs de la même sorte peuvent vraiment effectuer un changement concret. Et ça doit être reconnu, ça, à Paris et par la suite également.
Ronan Dantec, c'est exactement le but de ce sommet. C'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les provinces. En fait, il y a une vraie dynamique mondiale aujourd'hui. C'est complètement différent de ce qui se passait à Copenhague en 2009. Et donc, on peut espérer peut-être qu'à Paris, cette dynamique de la société civile va mettre une pression sur les décideurs.
Oui, une pression, c'est d'ores et déjà le cas avec les messages qu'on a délivrés ici à Lyon. Mais je crois que surtout... On est tous sortis effectivement un peu traumatisés de la séquence de Copenhague. Moi, je considère que l'enjeu majeur, finalement, c'est pas Paris. C'est le jour d'après où on va laisser passer les fêtes. On va dire rendez-vous le lundi 4 janvier 2016. Est-ce que le lundi 4 janvier 2016, tous ceux qui ont capacité à agir, agissent? Ils ne le feront, ils ne mettront leur énergie dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre que s'ils ont sentiment qu'il y a effectivement une voie possible. Et c'est cette dynamique-là qu'on illustre ici, qu'on met en scène ici. Moi, je crois que le risque aujourd'hui, c'est plus le climato-scepticisme. Les scientifiques ont montré à quel point la situation était grave et va même plus vite que ce que les rapports du GIEC ont souvent annoncé. En fait, on est face à un climato-fatalisme, c'est-à-dire de citoyens, d'acteurs qui se disent c'est très grave, mais de toute manière, les États n'arriveront pas à se mettre d'accord. Et donc, on va pas mettre notre énergie, non pas sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la solidarité avec l'autre, non, on va la mettre sur le repli sur notre territoire et on va se préparer à se défendre face à la menace des autres territoires, l'immigration climatique, les compétitions sur l'eau ou l'alimentation. Ce sommet de Lyon, il est là pour éviter ça. Il est là pour dire non, la communauté mondiale à travers ses acteurs non étatiques, c'est finalement des milliards de personnes qui sont représentées ici, on peut presque dire la quasi-totalité de la population de la planète, il y a même des représentants des peuples autochtones et tous les syndicats du monde qui sont là, et bien finalement la communauté mondiale dit non à ça, elle dit aux États, prenez vos responsabilités, mais surtout on va faire le travail, et lutter contre le climato-fatalisme, c'est vraiment notre priorité aujourd'hui, parce que sinon au lendemain de Paris, s'il y avait échec, alors là, on se préparait à un 21e siècle très difficile.
Merci messieurs d'être passés dans C'est pas du vent. Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve juste après le flash d'info, toujours à Lyon, avec d'autres acteurs de la société civile. À tout de suite.